L'enregistrement qui va suivre a été réalisé le 24 mars 2011 à l'Université libre de Bruxelles, dans le cadre de la Journée de la coopération. Monsieur Serge Anderlin, journaliste pour Libération, Le Temps et International, est aussi un spécialiste des questions énergétiques et géopolitiques dans le monde. Il s'est déplacé de Genève pour parler de son travail d'investigation dans les pays pétroliers. Blackout, la malédiction de l'or noir, est le titre de sa conférence. Merci.
Merci, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi aussi d'être invité ici à Bruxelles pour vous faire part de mes expériences de journaliste, de reporter et d'écrivain. Moi, je travaille sur le terrain, donc la confrontation avec le milieu académique est toujours intéressante, et peut-être aussi avec certains lecteurs belges qui se souviendront de la série qui avait été publiée dans les colonnes de ce journal il y a quelques années, qui est en partie dans l'ouvrage que vous avez mentionné, Un monde de brut, B-R-U-T, mais évidemment, le jeu de mots n'est pas là par hasard. Vous allez croire que j'invente cette anecdote, mais ce matin, en partant de Genève, en sortant du train, j'ai accroché mon veston. Une énorme balafre sur l'arrière. Je me suis dit, vous allez croire que c'est inventé, mais ce n'est pas vrai. Bah zut, je ne peux pas me présenter à Bruxelles avec un veston qui a un énorme trou ici. J'appelle un ami qui me dit, mais il y a une couturière juste à côté de la gare. Je vais chez cette couturière que je ne connaissais pas et je commence à discuter avec elle et je réalise de fil en aiguille, en parlant du monde tel qu'il va, de l'actualité, qu'elle était iranienne. Et puis alors on parle des révolutions dans le monde arabe, de l'Iran, si ça va basculer chez elle aussi. Puis elle me dit, mais mon bon monsieur, vous n'y pensez pas. Malheureusement, nous avons du pétrole. J'ai adoré cette phrase parce que depuis 10 ans que je travaille sur le sujet, je l'ai entendue sans cesse, à gauche et à droite, dans les pays dans lesquels j'ai eu la chance de me promener ou d'enquêter. Souvent on entend cette réflexion dans des pays qui sont censés être riches. Malheureusement, nous avons du pétrole. Le pétrole, c'est notre malheur. Avec le pétrole, on n'arrive à rien. Alors voilà, on est en plein dans le sujet, dans le sens où on est toujours dans cette problématique du développement, peut-être pas de la coopération, là je suis un peu en marge de votre journée de réflexion aujourd'hui, mais où une matière première qui existe depuis la nuit des temps, mais qui a une histoire dans nos civilisations qui date finalement que depuis un siècle, serait censée améliorer le quotidien des populations, et ce n'est jamais le cas, à part peut-être quelques exemples de pays relativement peu en développement, je pense à la Norvège, qui est un état, un des rares au monde où le pétrole a apporté une prospérité qui par ailleurs existait déjà. Depuis 10 ans, ce sujet me préoccupe parce que le 11 septembre 2001 a d'une certaine manière complètement changé le monde. Quelques mois auparavant, enfin quelques semaines même auparavant, on avait commencé à comprendre que l'homme du Texas qui s'était emparé de la Maison-Blanche une année avant, George Bush pour ne pas le nommer, on savait qu'il était du lobby pétrolier, qu'il venait du monde du pétrole, qu'il avait une vision du monde essentiellement axée autour de cette problématique. Et en fait, on a eu l'impression quand même très vite, on en discutait entre collègues, que cette date du 11 septembre avait servi de tremplin et de prétexte pour l'administration américaine pour articuler une politique allez, je vais le dire, de captation énergétique, à la fois en Afghanistan, Asie centrale, route du pétrole, et puis très vite à propos de l'Irak. Alors je ne répondrai pas, le débat est éternel, à la question est-ce que la guerre d'Irak était ou non une guerre pétrolière. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, plus de 10 ans après, même si les soldats américains se sont plus ou moins retirés du pays, il existe désormais des bases américaines en Irak, à plusieurs milliers de kilomètres plus à l'est du monde que là où se trouvaient les précédentes, les plus avancées dans cette direction. Donc on voit ici émerger une sorte de nouveau monde du post 11 septembre où le pétrole joue à nouveau, parce que ce n'était pas la première fois dans l'histoire, un rôle vraiment prépondérant dans les questions géopolitiques. C'est à cette époque, après la fin 2001, début 2002, que j'ai commencé à me dire finalement la grille d'analyse usuelle des journalistes et des reporters qui consiste à se renseigner, il y a une élection importante ici prochainement, il faudra couvrir les élections en Allemagne, et puis pas oublier les États-Unis, puis l'actualité qui vous guide, un conflit ici, une guerre civile là, finalement on pouvait superposer à cette ancienne grille d'analyse une autre grille de lecture, peut-être plus pertinente et plus inattendue, qui consistait à repérer quels étaient les endroits chauds de la bataille énergétique qui était en train de se jouer à un niveau global, et d'aller sur ces territoires, dans ces pays, pour comprendre comment ça se passait. avec une démarche que j'ai choisie d'emblée parce qu'elle me paraissait plus originale et surtout, j'allais dire, plus pratique, qui était d'éviter l'officialité. Je vous expliquerai un peu plus tard en détail la pratique, mais l'idée, c'est d'éviter les voyages de presse, d'éviter d'entretenir des relations trop proches avec les politiques ou avec les compagnies pétrolières, qui de toute manière sont très équipées pour vous mener en bateau et pour ne vous montrer que ce qu'ils souhaitent vous montrer, c'est-à-dire trois fois rien ou des catalogues en papier glacé qui promettent toujours de mirifiques développements et de grands succès. Cette partie-là m'intéresse un peu. J'ai choisi pour Un monde de brut, avec mon confrère Serge Michel, avec qui j'ai fait ce livre, une série de pays au nord et au sud de la planète qui, pour certains, sont de vieux pays pétroliers, plutôt au nord, et d'autres qui sont désormais ou qui allaient devenir des nouveaux pays pétroliers. L'idée étant de montrer comment le contraste entre un nord de la planète assoiffé d'hydrocarbures pour maintenir son style de vie, on pense aux États-Unis évidemment, on pense à l'Europe, mais on pense aussi désormais surtout à la Chine qui a très vite rattrapé les États-Unis sur cette gloutonnerie énergétique. Et donc pour contraster avec ce nord du monde qui a besoin de ce liquide pour maintenir son lifestyle, on trouve désormais au sud toute une série de nouveaux producteurs qui ont été approchés puis séduit par ces compagnies américaines et parfois par les gouvernements qui les appuient afin de se mettre sur le marché mondial du pétrole. Avant de partir pour ce voyage résumé, j'ai pris quelques pays seulement, j'aimerais juste remettre en place trois notions qui me paraissent essentielles, qui sont en fait les trois notions du triple choc énergétique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le premier choc est un choc économique. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs, de pays émergents, à tout seigneur, tout honneur, je vais citer la Chine en premier, le monde est en train de changer à une vitesse formidable. La Chine est devenue l'année dernière le premier marché automobile mondial. On y vend désormais plus de voitures en une année qu'aux États-Unis, 15 millions. C'est un chiffre colossal parce que, au-delà du fait que ce sont des voitures, ça indique surtout que la Chine, qui depuis des années est en phase de rattrapage, est désormais en train de terminer ce rattrapage pour s'inviter au banquet global des puissants. Et ce banquet s'organise essentiellement sur fonds d'énergie. Et pour que ça fonctionne, il faut que cette énergie soit bon marché. Ou, si elle ne l'est pas, que les pays qui ont besoin de cette énergie s'assurent des approvisionnements. La vérité, c'est que la piscine, je l'appelle comme ça, la piscine de brut, la piscine de pétrole globale, à une taille qui n'a pas changé, qui ne changera jamais. Le pétrole a été fabriqué une seule fois, dans des temps géologiques immémoriaux, et on pompe en réalité toujours dans la même piscine. Alors la vérité, c'est que certains puits s'épuisent, on en trouve d'autres, mais aujourd'hui, le rythme de remplacement de ce qu'on utilise par des ressources nouvelles que l'on trouve est en train de diminuer. Vous avez sans doute entendu parler de cette notion de peak oil, du peak pétrolier, c'est-à-dire du moment où, inexorablement, après une augmentation de la production, nous allons entrer dans une phase de plateau de production et puis de chute qui pourrait d'ailleurs être brutale. Cette notion est disputée, il y a des débats. Chaque année, on nous dit que c'est pour l'année prochaine et on nous le dit depuis 10 ans, donc toujours est-il qu'on n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver plus vite que prévu. Donc cette piscine ne s'agrandit pas. Nous avons dans cette piscine de plus en plus de nageurs. La moralité de cette petite histoire, c'est que les nageurs ont moins de place dans la piscine pour s'ébrouer et que la compétition devient de plus en plus âpre entre ces pays anciens consommateurs et ces pays nouveaux pour se partager ces réserves. Et puis il y a aussi, peut-être pour terminer sur le choc économique, là on parle d'offres et de demandes tout simplement, l'idée qu'au fond, il n'est pas certain que les Saoudiens, qui comme chacun sait sont les principaux propriétaires de pétrole sur la Terre, avec des réserves estimées à 261 milliards de barils, nous ne sommes plus certains que les Saoudiens ne mentent pas sur l'état de ces réserves. Ou alors, dit différemment, on est presque certain qu'eux-mêmes ne savent plus très bien où ils en sont. Le scandale ou l'affaire Wikileaks qui a occupé la presse mondiale depuis la fin novembre pendant un mois et demi, parmi une multitude d'informations, il y en a une qui est passée assez inaperçue, qui est un de ces fameux câbles diplomatiques de l'ambassade américaine à Riyad, qui débriefait un ancien responsable de la compagnie Saudi Aramco, compagnie nationale saoudienne, et qui indiquait en gros que le problème principal chez les Saoudiens était qu'ils avaient tellement pompé comme des fous depuis toujours que l'intégrité de ces réservoirs de pétrole, de ces nappes souterraines, était désormais menacée. Et en fait, le problème n'est pas la quantité qui reste, mais la question de savoir si on arrivera ou non à le sortir. Donc, Là, on a un peu déjà une image sur l'idée qu'il y a un choc frontal d'offres et de demandes. Il s'amoindrit quand le monde est en récession économique, comme c'était le cas il y a encore 2 ans. Quand la machine repart, très très vite, la tension est là. Je vous parlais d'un triple choc. Donc, choc économique, on vient d'en parler. Le second est un choc géopolitique. Le poids du Moyen-Orient dans les réserves pétrolières reste tout à fait prépondérant. On le voit aussi avec les nouveaux enjeux que provoque l'arrivée de la Chine, que j'ai mentionné, qui aujourd'hui est en train d'investir littéralement l'Afrique et ses pays producteurs de pétrole avec un partenariat que les Chinois en bon mandarin appellent un partenariat win-win, qu'on peut résumer ainsi, je viens, je prends le pétrole et en échange, je ne donne pas de leçons sur les droits de l'homme. Ça marche très bien. Puisque c'est très différent d'une compagnie française qui donne des leçons sur les droits de l'homme, même si elle ne fait rien derrière pour effectivement s'assurer qu'ils seront respectés. Donc on a là un déplacement avec, encore une fois, la Chine qui vraiment change le monde, qui débarque dans ces terres pétrolières. Elle débarque même dans des pays aussi stables et septentrionaux que le Canada, qui aujourd'hui préfère parfois négocier avec des compagnies chinoises qu'avec des compagnies étrangères. Monde arabe, toujours, qu'on voit depuis maintenant 3 mois en soubresaut invraisemblable. J'ai encore vu tout à l'heure qu'il y avait des dizaines de morts aujourd'hui en Syrie. Donc ça continue, on ne sait pas où ça s'arrêtera. Il a suffi que la Libye, qui est un producteur de pétrole certes important, mais enfin de loin pas majeur, entre d'abord en révolution, puis en guerre civile. La Libye produit 1,5 million de barils par jour. Il a suffi que 1 million de ces 1,5 million de barils disparaissent du marché, c'est-à-dire les 2/3 de la production libyenne, pour que le marché, tout d'un coup, s'affole, alors que cette production libyenne représente grosso modo 2% de la production mondiale globale. Donc on voit que de tout petits événements, là je parle de la quantité pétrolière, l'événement libyen est évidemment majeur, provoque une tension sur les marchés énorme. Imaginez maintenant que ce qui se passe dans le monde arabe se propage à l'Arabie saoudite. On l'a vu déjà au Bahreïn assez récemment, toute petite pétromonarchie qui produit très peu de pétrole, mais qui dispose d'une minorité chiite dominée par des monarques sunnites. Eh bien, en Arabie saoudite, on a aussi des monarques sunnites et une minorité chiite qui a le mauvais goût d'habiter exactement sur l'endroit du pays où se trouve l'essentiel du pétrole. Donc je ne vous fais pas le tableau, même les experts pétroliers des banques les plus réputées ne le font pas eux-mêmes par peur d'arriver avec des chiffres tellement astronomiques que le prix du baril exploserait littéralement. Ce choc géopolitique ajouté au choc économique, ça en fait déjà 2. Il y en a un 3e, mais là on entre dans une dimension vraiment historique puisque c'est la première fois que ces 3 chocs sont réunis ensemble, qui est le choc climatique. En vérité, depuis maintenant 10 ans, est venu s'ajouter à ces problématiques finalement anciennes qui datent du début de l'histoire du pétrole en tant que source d'énergie de notre civilisation industrielle. Le choc climatique désormais est une notion acquise et on sait, on admet, même si on n'agit peut-être pas forcément en conséquence, que nos émissions de CO2, de gaz carbonique doivent diminuer. Donc dans l'idéal, le pétrole devrait disparaître de la circulation parce que il est responsable en grande partie, ainsi que le gaz et le charbon, du réchauffement du climat. J'étais il y a 1 an et demi, ça n'a rien à voir avec les pays du Sud, mais en reportage au Groenland, justement pour mesurer le réchauffement climatique dans un pays du Grand Nord, de l'Arctique, où les glaces fondent beaucoup plus vite que dans les zones européennes ou plus centrales de la planète. Et à ma grande surprise, alors que j'allais essentiellement voir des ours blancs. J'ai dit ça en rigolant, j'en ai pas vu un seul, parce qu'il avait tellement fondu, la glace fondait tellement, elle existe toujours sur la calotte glaciaire, que le littoral était dépourvu de neige. On aurait pu être en Norvège, c'était presque une déception, en même temps quelque chose de spectaculaire. On était dans des paysages certes rocailleux, avec très peu d'arbres, mais vraiment pas l'impression d'être si loin au nord du monde. Le réchauffement là-bas est tellement spectaculaire que les compagnies pétrolières occidentales se réjouissent, puisqu'elles sont en train de commencer à prospérer la zone où la glace, la banquise, disparaît pendant l'hiver. Donc là, on voit ces 3 chocs se superposer. On se rend compte que, finalement, le pétrole, loin de disparaître, ça c'est ce qui est souhaitable d'un point de vue climatique, loin de réapparaître, parce qu'encore une fois, les réserves ne vont pas changer, reste un problème d'une centralité extrême dans les tensions qui règnent sur la planète. Voilà qui m'amène à la malédiction de l'or noir. En fait, au début de l'enquête pour ce livre « En monde de brut », j'étais tombé sur une citation d'un ancien ministre vénézuélien de l'énergie, j'ai noté son nom parce que je vais l'oublier, Juan Pablo Pérez Alfonso. En 1975, il avait dit, au terme d'une conférence de l'OPEP, que le pétrole était l'excrément du diable. Alors ça, c'est formidable comme phrase. Le pétrole, ce liquide si convoité, si recherché, l'excrément du diable. Il avait dit ça parce qu'après quelques dizaines d'années d'exploitation, le Venezuela est un vieux pays pétrolier, il constatait que finalement, plus ils étaient riches, plus ils étaient devenus pauvres. Et il avait sorti cette phrase en disant « Le pétrole apporte le chaos, la corruption, le démembrement de nos services publics ». Alors j'ai pris cette phrase en bandoulière, un peu comme on la prend comme un sac à dos, et puis je suis parti pour un certain nombre de pays pour raconter cette malédiction de l'or noir et essayer de montrer comment ces ressources pétrolières, en réalité, provoquent bien plus souvent que le développement, le malheur des peuples qui en possèdent. Première étape donc, m'a amené à Malabo, en Guinée équatoriale. Donc juste pour vous le situer, ce pays est très peu connu. Il y a plusieurs Guinées en Afrique, et d'ailleurs pas seulement en Afrique. La Guinée équatoriale, c'est un tout petit territoire. Enfin, je dis tout petit, il a la taille de la Belgique, donc ce n'est pas un petit territoire. Voilà. Et comme la Belgique, il est coupé en deux. Là, j'ai fait du mauvais humour, puisque vous avez une partie où se trouve la capitale Malabo, s'appelle l'île de Bioko. Et une autre partie à la droite, Guinée équatoriale, est la partie continentale du même pays, dont la ville principale s'appelle Bata, comme les chaussures. Et donc ça se trouve entre la partie donc, continentale, se trouve entre le Cameroun au nord, le Gabon au sud. Quant à l'île de Bioko, elle fait face à la capitale économique du Cameroun et à peu près à équidistance du Nigeria. Pourquoi je suis allé là-bas? D'abord parce que je n'avais jamais entendu parler de ce pays. Et puis... en réalité, c'était un pays qui offre tous les syndromes du mauvais développement pétrolier dû au pétrole, provoqué par le pétrole et inexorablement aggravé par le pétrole. Ce pays est gouverné par un personnage qui s'appelle Teodoro Obiang Nguema, qui a pris le pouvoir il y a une trentaine d'années en faisant assassiner son oncle, Macias Nguema, qui lui-même était un personnage relativement peu fréquentable puisqu'il avait pour habitude de crucifier ses opposants sur la route de l'aéroport pour montrer aux rares visiteurs étrangers de passage qui dirigeait vraiment le pays. Teodoro Obiang Nguema est devenu, au début des années 2000, un ami très important des Américains et de Washington, encore plus de Houston, j'allais dire, la capitale pétrolière des États-Unis, du monde même et du Texas, puisque... Une ligne aérienne directe a été inaugurée entre Houston et Malabo, ça paraît improbable mais ça existe, pour amener des pétroliers qui sont venus prospecter les champs de pétrole offshore. Donc ce n'est pas du pétrole onshore, c'est du pétrole en mer. Certaines compagnies, comme la compagnie Marathon, comme la compagnie Amerada Hess, ExxonMobil et d'autres, ont débarqué dans ce pays en signant des contrats tellement profitables qu'elles n'en croyaient pas elles-mêmes les bénéfices. Ce brave monsieur a laissé 85% des bénéfices à ses compagnies, se contentant pour son pays des 15% restants. Alors le problème, c'est que j'ai dit se contentant pour son pays des 15% restants, la vérité c'est que c'était en fait surtout pour lui, puisque le pays n'a pas vu grand-chose de cet argent, qui est régulièrement retrouvé maintenant depuis une décennie et demie sur des comptes eux aussi offshore, c'est-à-dire aux îles Caïmans, dans des banques privées américaines, britanniques et surtout suisses évidemment. Et ce personnage fait partie, ainsi que certains de ses confrères africains, par exemple du Gabon, du Congo-Brazzaville, je cite d'autres pays pétroliers, quel est le quatrième L'Angola, merci, j'allais y venir, je l'oublie. Des fameuses listes des présidents, aujourd'hui accusés par la justice française d'avoir ces fameux BMA, les biens mal acquis. Mal acquis parce qu'avec de l'argent qui ne leur appartient pas, mais surtout placés dans les beaux arrondissements de Paris, si ce n'est de ceux de Beverly Hills en Californie. En arrivant sur place, en Guinée équatoriale, il faut quand même s'imaginer que ce n'est pas un pays extrêmement développé. L'aéroport était vraiment... une piste de brousse, sauf qu'aux dernières nouvelles, on a amélioré le pavillon présidentiel pour y poser les jets privés du président et de sa famille. Mais il y a quand même un certain nombre de compagnies occidentales qui déposent des passagers. Quand j'ai pris ce vol entre Madrid et Malabo, la Guinée équatoriale est une ancienne colonie espagnole, indépendante depuis 1968, j'étais entouré dans l'avion de solides gaillards écossais, tatoués de partout, qui vidaient des six-packs de bière, qui étaient des pétroliers, des gars qui travaillent offshore sur les plateformes dans le monde entier, des sortes de mercenaires du pétrole, et qu'on retrouve un peu partout, en Afrique notamment, sur ces nouvelles terres pétrolières, j'allais le dire, même si en l'occurrence les choses se passent en mer. Donc la Guinée équatoriale est un pays curieux, puisque quand vous essayez d'organiser dans un pays comme ça des rendez-vous, des rencontres avec des officiels, c'est évidemment impossible. De quoi voulez-vous parler ? De pétrole ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Bon, on aimerait savoir, autant le dire tout de suite, où passe l'argent. Donc il est effectivement vrai que je n'ai pas eu beaucoup de rendez-vous. D'ailleurs, ce n'est pas ma manière de travailler. J'y vais pas en m'annonçant à l'avance, j'y vais un peu en touriste. Pas en touriste dans la méthode de travail, mais en touriste de manière officielle. Là, peut-être une petite digression sur mon travail dans ces pays-là. Il est clair qu'il est inutile de s'annoncer en tant que journaliste. On serait sans doute très bien traité, très bien accompagné aussi, très bien entouré probablement, avec la certitude de se faire balader, mener en bateau avec des gens qui vous présentent des rapports de gestion magnifiques, certifiés par tous les organismes internationaux nécessaires, qui vous présentent des brochures multicolores pleines de résultats formidables, mais vous n'avez pas une vraie image du pays. Donc ma pratique, c'est plutôt d'essayer de travailler jusqu'au moment où ça devient plus possible, parce qu'on se fait repérer et jeter du pays, en général de manière assez polyme, enfin voilà, on ne peut plus y rester. Et en Guinée équatoriale, j'ai travaillé comme ça, sans véritable problème, puisque, et c'est ça un peu le scandale absolu de cette corruption, de ce brigandage. D'ailleurs, Obiang Nguema, j'espère que personne ne le représente dans la salle, est ici, mais si c'est le cas, je me ferai un plaisir d'en parler avec lui ou elle à la fin de cette conférence, a été surnommé le Tropical Gangster, pour signifier un peu à quel type de personnage on a affaire. Donc on ne voit rien. On ne voit rien si on s'invite officiellement. Par contre, en traînant, en prenant le temps, en discutant, en prenant les portes dérobées, on découvre des choses étranges. Je vais vous raconter cette scène. Il existe évidemment un ministère du pétrole à Malabo, en Guinée équatoriale, où trône en principe un ministre du pétrole. Le problème, c'est que ce monsieur n'est jamais au bureau, qu'on doit lui envoyer des emails alors qu'on se trouve à Malabo et qu'on nous avait demandé d'envoyer l'email depuis l'Europe 3 mois avant, mais qu'il n'avait jamais répondu. Donc on se dit, on va peut-être pas envoyer un email depuis l'hôtel alors qu'on est 2 rues à côté. Donc on s'est dit, on monte au ministère. Deuxième étage, une secrétaire se fait les ongles devant un écran d'ordinateur avec des motifs 3D magnifiques. Bonjour, on aimerait voir le ministre. Ah, il n'est pas là. « Ah ben c'est dommage, vous savez où il est ?»« Ah non, mais il va revenir un peu plus tard. » Je dis « C'est pas grave, je vais l'attendre. » Et je l'attends dans un canapé de la réception et je vois passer un type, un grand type, anglo-saxon visiblement, en Bermuda, avec un chapeau sur la tête, une chemise trempée de sueur, c'était vraiment Tintin. Le type entre dans le bureau du ministre et commence à fouiller dans des grandes piles de papier. Alors j'en déduis rien du tout, si ce n'est que ce type fouillait dans le bureau du ministre, donc visiblement il était chez lui. Ça se demandait si le ministre était vraiment l'absent ou le présent. Finalement, arrive le ministre équato-guinéen du pétrole, une magnifique Rolex en or au poignet, s'assied dans son bureau, me convoque, il avait des étagères qui débordaient de papiers et de documents dans un foutoir indescriptible. Je dis, écoutez, moi, ma seule question, j'aimerais savoir combien ce pétrole que vous exploitez désormais depuis 2001, 500 000 barils par jour à l'époque, un peu plus aujourd'hui, combien est-ce que ça rapporte au pays ? C'est assez simple, on n'a qu'à faire le calcul du nombre de barils extraits, de celui très petit que vous utilisez pour des raisons domestiques, et puis ensuite il restera ce que vous avez exporté au prix du marché, on fait le calcul et on a le résultat. Il dit « Ah non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça ». Il me sort une énorme pile de papier, il me la met sur les genoux en disant « Vous voyez, tout est transparent, c'est écrit ici ». Il se lève et il part. Dans ces papiers, il n'y avait rien, rien n'était rangé. J'ai trouvé la scène extraordinaire parce que la vérité, c'est que ces gouvernements sont incapables de faire auditer leurs comptes par des sources fiables qui réussiraient à prouver que l'argent est utilisé pour du développement. Maintenant, il n'y a aucune obligation non plus de le faire. Et c'est ça qui est sinistre dans cette véritable farce pétrolière, c'est que rien n'oblige la Guinée équatoriale, État souverain, à partager son pétrole avec ses citoyens. D'autant plus que des chantiers existent. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une deuxième route goudronnée qui a été faite dans le pays. Oui, on a créé un nouveau quartier résidentiel pour la communauté diplomatique. Oui, les pétroliers de ExxonMobil ont des barbelés autour de leurs compounds. Oui, il y a des nouvelles écoles qui sont apparues. Mais la vérité, c'est qu'en Guinée équatoriale, on ne divise pas l'argent du pétrole par 500 000 habitants, on le divise par 1. 1, c'est Obiang Nguema et sa clique au pouvoir qui ont une réputation absolument désastreuse et qui les a menés, par exemple, l'année dernière, à se voir refuser, humiliation suprême, par l'UNESCO. Obiang, le président, avait décidé d'offrir 1 million de dollars à l'UNESCO pour qu'un prix pour la bonne gouvernance et le développement humain porte son nom. Le prix Obiang Nguema des droits de l'homme, en gros. Voilà. Il a fallu un activisme diplomatique insensé de la part de certains gouvernements européens, qui jusque-là n'avaient rien trouvé à redire, pour qu'à l'extrême dernière minute, ce prix soit annulé, que cette récompense n'existe pas. En attendant, le pétrole continue à sortir de Guinée équatoriale. Il a un avantage énorme, c'est que, comme tout le pétrole africain du golfe de Guinée, vous vous trouvez tout près, voilà, et cette grande flaque à traverser, et vous arrivez dans les grandes raffineries du Texas, de Louisiane ou de Floride. Il n'y a aucun détroit à traverser, et il n'y a même pas de pirates. Alors que c'est quand même beaucoup plus compliqué à travers le golfe Persique, le détroit d'Ormuz, puis la remontée par le détroit du Bab-el-Mandeb entre le Yémen et Djibouti avec le chaos somalien et ses pirates, la mer Rouge, le canal de Suez, la Méditerranée, Gibraltar. Enfin, vous voyez, il y a quand même toute une série de contraintes géographiques qui n'existent pas du tout pour tout le pétrole offshore africain. Et on comprend du coup l'intérêt incroyable que portent les États-Unis à ce pétrole-là depuis 10 ans, puisque désormais, on pense qu'à peu près un quart du pétrole d'importation aux États-Unis vient directement de ces pays-là. Ces pays, c'est la Guinée équatoriale, et c'est aussi et surtout l'Angola où nous allons partir maintenant. Luanda. Luanda, ville misérable, mais deuxième ville la plus chère au monde après Tokyo, puisque l'inflation pétrolière dans ce pays qui bat année après année, grâce aux compagnies occidentales, des records de profondeur dans la découverte de pétrole offshore. Les acteurs sont toujours les mêmes, c'est les Américains Chevron, c'est les Français de Total, désormais aussi les compagnies chinoises, et qui ont réussi à faire de ce pays exsangue après 30 ans de guerre civile entre l'armée régulière du MPLA et les guérilleros de l'UNITA en face de Jonas Savimbi. Ce pays était un champ de bataille pendant la guerre froide entre les intérêts soviétiques d'un côté et les intérêts, on va dire, du monde libre de l'autre. Ce pays est sorti de la guerre et par un retournement de tendance incroyable, en peu d'années, l'homme qui était dans le collimateur de Washington, à savoir Dos Santos, ami des Russes, est devenu leur plus grand ami, puisque après un retournement de veste spectaculaire, il est désormais capable d'assurer quotidiennement à peu près 2 millions de barils, dont plus des trois quarts partent pour les marchés internationaux, encore une fois essentiellement en direction de l'autre côté de l'Atlantique. Le problème avec l'Angola, il est le même qu'en Guinée équatoriale, je dirais même à une plus grande échelle. Quand nous étions sur place, il y a deux choses qui nous ont frappés. La première, c'est le bidonville de Boa Vista, qui se trouve en pente douce depuis la plage, depuis la côte, et qui remonte, c'est un peu derrière l'aéroport, qui remonte vers le palais présidentiel et vers le quartier des ambassades. Et ce qu'on a appris sur place, c'est que les places les plus chères, si on peut dire ça comme ça, les plus disputées de ce bidonville, sont les places qui sont tout au sommet de la côte, parce que comme ils sont juste en dessous des ambassades, ils sont les premiers à recevoir les poubelles. Donc les premiers à pouvoir trier dans les poubelles, et donc à pouvoir en profiter. Non loin, derrière cette rangée d'ambassades, sur le plateau de Miramar, se trouve la compagnie française Total, qui a d'énormes opérations en Angola et que nous avons essayé pendant plusieurs mois de draguer, on peut dire ça comme ça, en disant, écoutez, ouvrez-nous vos portes, nous allons venir en Angola, nous aimerions comprendre comment le peuple angolais, béni des dieux avec tout ce pétrole, profite de cette manne inespérée. Et que faites-vous, surtout, pour en faire profiter les Angolais? Parce qu'évidemment, on sait bien que Total est une compagnie socialement responsable et que vous n'allez pas uniquement là-bas pour prendre du pétrole. On a reçu plein de promesses, tout ça se passe par email, donc dans l'anonymat le plus total, et surtout dans l'oubli potentiel de l'email le plus normal aussi. Bref, aucun contact. Et la scène est devenue surréaliste le jour où nous nous trouvions, il se faisait déjà nuit, on est sous les tropiques, 18h, au pied du bâtiment Total, avec au bout du fil le patron de Total sur place qui dit « Je ne peux pas vous répondre, je suis à Paris ». Écoutez, monsieur, je suis désolé, je suis au pied de l'immeuble, je vous vois au troisième étage avec votre téléphone. Voilà, donc c'était drôle, il a même ri, mais il a quand même fini par nous raccrocher le téléphone au nez, par dire de toute manière, c'est que Paris qui décide. Donc les compagnies pétrolières, cette anecdote qui en vaut d'autres, pour expliquer qu'elles ne communiquent évidemment qu'à leur bon vouloir. C'est-à-dire que quand elles ont quelque chose à montrer de, je dirais, de sympathique, au-delà de leurs exploits technologiques, de forage et autres, elles invitent les journalistes en les encadrant très correctement pour montrer que ici, en Indonésie, que là, à Brazzaville, elles ont ouvert une école, qu'elles forment des ingénieurs pétroliers, etc. La vérité, c'est qu'elles font plus ça pour s'acheter une bonne conscience que par un souci réel de développement. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons. Je pense que les textes et les écrits que je fais sont un panorama qui permettent à chacun de puiser des informations et de se faire un avis. Moi, à la limite, ça me scandalise, mais ça ne me dérange pas. Ça peut vous paraître paradoxal, mais ce que nous a dit à Malabo, en Guinée équatoriale, un homme de ExxonMobil, c'est, vous savez, on n'est pas là pour faire des écoles, mais du pétrole. Alors, ça rime, en tout cas en français, et c'est vrai que c'est leur travail. L'accountability, ce mot anglais qu'on utilise pour savoir si les gouvernements sur place de devraient être davantage responsables, si les compagnies pétrolières devraient être davantage responsables de leurs agissements sur place, relèvent finalement d'une responsabilité de gouvernement ou d'institutions internationales qui doivent ou devraient être capables de mettre sur pied des instruments de contrôle. Des tentatives existent ou ont existé et n'ont pas donné beaucoup de résultats. J'en mentionnerai deux. La première est une initiative d'origine britannique qui s'appelle l'initiative pour la transparence dans les industries d'extraction. Tony Blair était à l'origine de cette initiative-là pour obliger, en tout cas, ou pousser plutôt les compagnies pétrolières britanniques, BP et Shell, qui sont parmi les plus puissantes au monde, à dévoiler ce qu'elles payaient comme ticket d'entrée, en français, pot de vin, hein, on dit, pour aller travailler dans ces pays. Et à contrario, les gouvernements qui les recevaient devaient dire que de l'argent avait circulé. L'idée n'était pas de tuer les pots de vin, mais un peu quand même, parce que admettre qu'on en a payé un, c'est un peu sale. Donc l'idée était de montrer que si on signait ce document, on s'engageait à ne plus le faire. Ce qui aurait eu un avantage certain, c'est de pouvoir certifier d'une certaine manière que ces compagnies-là et ces gouvernements-ci, donc les récipiendaires de ces largesses, s'engageraient d'une certaine manière à ne plus faire ça. Avec un effet bénéfique, par exemple, sur le cours de bourse des sociétés en question, puisque de nombreuses ONG, aujourd'hui, s'évertuent à traquer ces circuits financiers, à montrer qui a mis la main dans le pot de confiture, pour le compte de qui, etc. J'en mentionnerai une autre d'initiative, à l'origine en partie de l'ONG britannique Global Witness, qui depuis des années documente ces scandales pétroliers, gaziers, avec des enquêtes d'une incroyable complexité, d'une incroyable précision. C'est cette ONG qui a retrouvé l'argent de Obiang dans la banque Riggs à Washington. C'est cette ONG qui est à l'origine d'une partie importante de toutes les révélations sur le scandale de l'Angola Gate en Angola, etc., etc. Global Witness s'était engagé autour de 2003-2004 avec George Soros, le financier américain, à lancer une initiative qui s'appelle Publish What You Pay, qui avait pour but de faire publier par les responsables, compagnies pétrolières, ce qu'elles étaient prêtes à mettre pour entrer sur un nouveau terrain d'action. Je n'ai plus entendu parler de cette initiative depuis quelques années. Ça ne veut pas dire qu'elle est morte, mais visiblement les choses sont très difficiles à mettre en place. Peut-être, avant de partir pour le Kazakhstan, qui est un autre exemple de pétrocrature, mais j'aime bien finalement ce néologisme, moi j'ai l'impression que on ne peut pas a priori exclure la bonne gouvernance et le pétrole, mais que c'est difficile quand le pétrole s'abat, c'est vraiment le terme qu'on peut utiliser, sur des pays qui sont mal préparés. Et qui peut être préparé à ce genre de manne et aux tentations qui vont avec quand on parle du continent noir ? Aux dernières nouvelles, vous avez toute une série de pays. Il y a évidemment l'exemple du Tchad dont on peut parler. Il y a aussi maintenant, j'ai vu ça récemment, ces deux dernières années, de nouveaux pays qui vont devenir pétroliers comme le Ghana, comme l'Ouganda, qui vont devenir des producteurs. Alors le problème, c'est que par un curieux hasard, le Ghana et l'Ouganda étaient en Afrique même si on peut toujours en discuter, à peu près ce qui se faisait de mieux ou de moins pire en termes de gouvernance, de développement, d'indice du développement humain. Il y a vraiment des territoires bien plus dramatiques que ceux-ci, mais déjà sont à l'œuvre des logiques qui permettent de penser que si les choses ne sont pas extrêmement surveillées, ça va, encore une fois, profiter non pas à un développement, mais à un mal-développement. Le développement, dit de manière crue, auquel on assiste de manière la plus visible quand on se promène comme témoin, comme journaliste, comme reporter, dans les pays pétroliers, le développement le plus visible, c'est celui de la prostitution. Parce que quand vous avez tous ces pétroliers occidentaux qui débarquent, ces travailleurs du pétrole, c'est des gars costauds qui sont 6 mois sur une plateforme avant de rentrer dans leur famille en Écosse ou ailleurs, évidemment, ils ont quelques besoins et donc ils créent un marché, ils créent une demande et l'offre naturellement vient à eux. Et donc que ce soit au Kazakhstan, en Guinée équatoriale, en Angola et partout ailleurs où je suis allé depuis 15 ans, c'est un monde d'une cruauté absolue où ces choses se mettent en place de manière quasiment naturelle. On est dans l'offre et la demande pétrolière, on est dans l'offre et la demande du sexe pour ces travailleurs-là, etc. C'est pour ça qu'en travaillant avec l'éditeur, on a trouvé ce titre « Un monde de brutes » parce qu'on a vraiment… trouver que voilà, le pétrole, c'est encore une fois l'excrément du diable, on reprend la phrase qui nous avait motivés pour ce voyage au début, entretenait des drames, les provoquait parfois, les aggravait pour ceux qui avaient débuté avant. Toutes les guerres ne sont pas pétrolières, toutes les guerres n'ont pas commencé pour le pétrole, mais quand on en trouve, ça aggrave bien souvent les cas. Troisième étape de ce petit voyage que je vous ai refabriqué après coup, hein, je ne l'ai pas fait dans cet ordre-là, en vérité. On va partir, alors là, beaucoup plus loin, pour le Kazakhstan. Alors, le Kazakhstan, lui, je vais l'arrêter là, est un tout petit peu plus grand que la Belgique, puisqu'il a la taille de l'Europe occidentale, de la Bretagne à Moscou, en résumé. Voilà, c'est cet énorme géant tapis au cœur de l'Eurasie. La capitale ancienne s'appelle Alma-Ata, mais le gouvernement a décidé de la déplacer parce qu'il trouvait qu'elle était dangereusement proche de la Chine et puis surtout à l'ombre de ces très grandes montagnes qui se situent à 7000 mètres. Donc dans les plaines du nord du Kazakhstan, qui sont en fait le prolongement de la plaine de Sibérie, on est en train de bâtir une capitale. Voilà à quoi ressemble le chantier d'Astana il y a 8 ans. Depuis, la ville s'est couverte de grandes avenues, de palais présidentiels, de palais de la culture, de ministères de ceci, de ministères de cela, de temples du sport, etc. Il ne serait pas étonnant que, dans un avenir assez proche, on assiste à des Jeux olympiques ou à un barnum du genre dans ce pays qui a de grandes ambitions géopolitiques, culturelles, planétaires, essentiellement permises par le pétrole. Le responsable, je vais aussi revenir dans mes amis, les tyrans pétroliers, de ce miracle kazakh, s'appelle Nursultan Nazarbayev. Petite biographie rapide du personnage, ouvrier métallurgiste, spécialisé dans les grandes aciéries du Kazakhstan, gravit très vite les échelons à l'époque communiste et devient premier secrétaire du Parti communiste du Kazakhstan en 89. En 91, il est élu président de la République, et depuis 91, ça fait 20 ans, eh bien, il est élu président de la République tous les 4 ans, ou tous les 5, des fois même tous les 3, parce qu'on change régulièrement la date de l'élection. Et maintenant, il n'aura même plus besoin d'élection, puisqu'on est en train de réviser pour une énième fois la Constitution, de manière à ce qu'on supprime les élections, qui est une perte de temps un peu inutile. Quand on dispose d'un tel génie pour développer un pays, on n'a naturellement pas besoin de procéder à des élections où l'opposition aurait des choses à dire. L'intérêt du Kazakhstan, c'est que l'opposition, en fait, est d'une nature très pétrolière. À savoir que dans ce pays que j'ai appelé la kleptocratie, en vérité, on s'était dit, en arrivant sur place à Astana, on va faire la liste, il nous semble qu'il y a quand même beaucoup de choses qui appartiennent à la famille de M. Nazarbayev, qui a 3 filles, une épouse, des cousins, des frères, etc. Puis quand vous prenez la liste des compagnies pétrolières du pays, des compagnies gazières, énergétiques, on trouve de tout là-bas, de l'uranium, du plomb, enfin bref, c'est une véritable mine d'or dans tous les sens du terme. Finalement, on aurait mieux fait de faire la liste de tout ce qui n'appartient pas à la famille présidentielle, parce que ça aurait été beaucoup plus court. Donc ce pays a été confisqué par le clan Nazarbayev en moins de 15 ans. Et ce personnage, qui est redoutablement rusé, a réussi à faire accréditer l'idée à la fois du côté chinois et à la fois du côté européen, ces pratiques qui se trouvent juste entre les deux, qui pouvaient servir de l'énergie des deux côtés. Donc à coup de longs pipelines tirés vers la Chine, à coup de longs pipelines tirés depuis la mer Caspienne vers l'Occident, il est en train de se constituer un réseau d'amitié planétaire qui font qu'on remet difficilement en cause sa kleptocratie et surtout son autoritarisme, puisque les opposants sont évidemment systématiquement enfermés et que la liberté de parole est inexistante. Vous voyez, le Kazakhstan, les ressources pétrolières pour celles qui sont onshore et dans ces secteurs nord de la mer Caspienne pour les ressources offshore. Le grand champ pétrolier de Kashagan, qui est en préparation depuis plus de 10 ans maintenant, mais qui n'a toujours pas sorti une goutte de pétrole, parce que c'est compliqué d'un point de vue technologique, je vous passe les détails, pourrait faire du Kazakhstan à terme, c'est en tout cas ce qu'imagine Nazarbayev, le 5e ou 6e producteur mondial. Le problème, on le voit, il saute aux yeux, c'est que c'est un tout petit peu enclavé et qu'il faudra tirer des tuyaux pour ensuite livrer ce pétrole sur les marchés mondiaux. Donc on est au milieu de la Caspienne, et puis c'est très peu profond en fait, c'est une profondeur de 4 ou 5 mètres seulement. Donc à la place de planter des plateformes, c'est simplement des remblais où cette structure est posée sur le fond, et puis on pourrait quasiment marcher à pied sec, enfin il y a 4 mètres d'eau. Sauf qu'en hiver c'est entièrement recouvert par la banquise, et donc il y a des difficultés technologiques. Ce gisement-là excite tellement la convoitise des compagnies occidentales depuis maintenant 10 ans, que on a vraiment l'impression qu'il y a eu un deal, c'est en gros le champ de Kashagan contre un silence généreux vis-à-vis des agissements du régime de M. Nazarbayev à Astana. L'année dernière, aussi stupéfiant que ça puisse paraître, le Kazakhstan présidait l'OSCE, l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe, qui est censée défendre une certaine vision de l'idéal démocratique, des droits de l'homme, d'élections libres, d'une société ouverte où le droit de s'exprimer n'est pas systématiquement réprimé. Il y a même eu un sommet à la fin de l'année à Astana où effectivement tous les chefs d'État occidentaux n'ont pas pris la peine de participer. Mais n'empêche qu'on comprend bien là que quand un enjeu énergétique ou pétrolier est tel, ça modère un tout petit peu l'enthousiasme des critiques, en tout cas chez nos gouvernants. Je reviens en mer Caspienne, puisque, comme il faut toujours une exception à la règle, après des mois et des mois de refus dans ces enquêtes dans les pays pétroliers, de refus des compagnies, pour une fois, surprise, nous recevons un coup de téléphone des responsables de la compagnie italienne Eni, Agip, à Rome. Alors, peut-être est-ce dû à la désorganisation italienne légendaire ou au charme latin. Toujours est-il qu'ils acceptent, oui, bien, ah, vous êtes à Tira, formidable, venez visiter nos installations, on vous ouvre toutes les portes. Ah bon ? Alors peut-être que c'est un malentendu, en tout cas on en a profité pour aller pendant une semaine visiter justement ces installations au nord de la Caspienne qui dessert ces plateformes de Kashagan. Les Italiens nous amènent sur ces plateformes, encore une fois remplies d'Écossais, c'est donc la tradition de la mer du Nord et des travailleurs du pétrole offshore. Et puis bon, c'est intéressant d'un point de vue technologique et technique. Mais nous, on voulait savoir, finalement, dans cet endroit très pauvre d'Asie centrale, au nord de Atyrau, c'est vraiment misérable. Et on demande à un des responsables sur place de Eni, de la compagnie italienne, que faites-vous pour les populations locales ? Ah, on vous voit bien venir, nous répondent les pétroliers. Oui, les journalistes cherchent toujours la merde, comme quoi on vient dans les pays, on prend le pétrole, puis quand il n'y en a plus, on se tire, puis c'est pire que... Pas du tout. Alors nous, on est vraiment très très bien. D'ailleurs, on ouvre des écoles. Et puis d'ailleurs, il faut venir avec nous dimanche, on va distribuer des crayons aux enfants de l'orphelinat de Makat. Super. Alors, ils nous emmènent. On se dirige dans une petite ville qui s'appelle Makat, au nord d'Atyrau. Alors, plus misérable que ça, tu meurs. Mais l'idée, c'était que, comme un pipeline allait être tiré depuis le rivage à Atyrau pour rejoindre un pipeline russe, bien ici à Makat, on a distribué des crayons pour les enfants de l'orphelinat. Le problème, c'est que toute la ville a répliqué, tous les enfants ont pris les crayons et qu'il n'y avait évidemment pas assez de crayons parce que Agip n'avait pas compté assez large. Et c'est là qu'une des responsables de l'action sociale de cette compagnie pétrolière a dit « Ah, mais les enfants de l'orphelinat, ce matin, ils ont eu des craies, ils ont fait des dessins à la craie dans le préau. Donc il n'y a que les enfants qui ont de la craie sur les doigts qui ont le droit de recevoir des crayons parce que c'est ceux-là les orphelins. » Évidemment, ça a fuité et tous les gamins du village sont allés se frotter les mains dans la craie pour aller les montrer à Agip et recevoir des crayons. Évidemment, c'est horrible, c'est drôle, c'est cruel, mais on a adoré cette anecdote parce qu'elle est assez révélatrice de ces tentatives comiques, désespérées, sans doute au fond de bonne foi, mais des telles gouttes d'eau de ces compagnies pétrolières dans les pays dans lesquels elles agissent. Un peu plus tard, le gouverneur de l'oblast du district de Makat invite les représentants de la compagnie pétrolière pour les remercier de ce geste formidable, nous invite avec, commence à servir de la vodka, une vodka, deux vodkas, un toast, l'amitié entre les peuples, etc., un nombre incroyable de toasts. Les responsables pétroliers très très vite remplacent leur verre de vodka par des verres d'eau. L'Hakim, le gouverneur de Makat, les voit. D'ailleurs, pas de ça ici, vous n'allez pas faire des toasts avec des verres d'eau, engueule le pétrolier. Et finalement, on a tous fini totalement ivres quelques heures plus tard. Mais la fable de cette histoire que j'en ai retenue et qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fin de compte, on a senti ces gens tellement mal à l'aise, ces pétroliers, ils allaient faire ça le dimanche, un peu en catimini, comme on va s'excuser presque. Donc l'idée, c'était... C'est une partie de leur travail. Chaque compagnie pétrolière possède une division Corporate Social Responsibility où on essaye d'amoindrir le choc provoqué par l'irruption de cette extraction de la richesse en vue de créer du profit dans des pays qui n'en voient pas passer la couleur. Dernier exemple qui me saute aux yeux, je l'aime beaucoup aussi, il est encore plus cruel, dans l'enclave de Cabinda en Angola, autre pétrocratie, autre pétrocrature, autre kleptocratie, Chevron, la compagnie américaine, dispose d'une base onshore entourée de barbelés, gardée par des miliciens en armes, qui sont des gens relativement bien payés. C'est à peu près les seuls emplois qui sont réservés aux Africains autour des sites d'exploitation pétrolière. C'est rarement des boulots d'ingénieurs, mais ça le devient un peu plus parce qu'on en forme quelques-uns, mais c'est souvent des boulots de sécurité. Et derrière cette base, une fois qu'on parvient à y entrer, on trouve... des dizaines, voire des centaines d'expatriés occidentaux qui travaillent et qui s'affairent dans des sortes de préfabriqués climatisés où défilent des chaînes sportives américaines et du Coca-Cola à gogo. Et puis, on nous raconte cette histoire saisissante le lendemain d'un responsable local des droits de l'homme dans l'enclave de Cabinda, un Angolais, qui essaye tant bien que mal de dénoncer ou de documenter la manière dont travaillent les pétroliers dans son pays, qui nous dit « Vous savez ce qu'ils font tous les deux ans quand ils renouvellent leur parc informatique ?» Non, ben ils creusent un grand trou à l'intérieur de leur compound sécurisé, ils enlèvent la terre, ils mettent les ordinateurs au fond du trou et ils recouvrent. Ah bon ? Pourquoi ? Ils font ça parce qu'ils ne veulent pas les partager. Donc lui, c'est comme ça qu'il expliquait les choses. Donc au lieu de... L'histoire paraissait tellement invraisemblable qu'on lui a demandé si ça arrivait souvent. Il a dit qu'ils le font tous les deux ans parce que l'idée, c'est qu'ils ont des programmes de développement officiels où ils montrent ce qu'ils font, mais ils ne vont pas commencer à ouvrir les portes de leur enclave, de leur enceinte, pour montrer qu'il y a un échange possible avec cette Afrique sur laquelle ils travaillent. En vérité, ces gens ne vivent pas en Afrique. Ils vivent sur une île sécurisée qui est posée sur un morceau de territoire africain, mais qui pourrait tout aussi bien être sur la Lune. Dernier exemple, je reviens à Malabo, un jour sur une terrasse, je croise un expatrié du pétrole, un Français, son nom ne figure pas dans le livre, on a choisi un pseudonyme, ça lui aurait fait trop de mal, qui dit « Ah, oh, c'est vraiment la merde ici. » « Bon ? Ah oui, pourquoi ? Parce que c'est l'Afrique. » « Ah, comment ça, c'est, la... oui, là, c'est l'Afrique, c'est horrible, l'Afrique. Alors, qu'est-ce que vous faites là ?»« Ah, oh, mais je fais de l'argent. » Et puis, « Mais je viens que dans ce restaurant. Hein. » Il dit « Pourquoi ?»« Bah, parce que c'est l'Afrique. Dans celui-là, on n'est pas malade. Dans tous les autres, on est malade. » Et puis vraiment, le week-end, je pars. « Ah bon ?» Tous les week-ends, je prends l'avion pour aller à Abu Dhabi, parce qu'on peut faire du 260 sur l'autoroute entre Abu Dhabi et Dubaï. Voilà. Donc, ces personnages de films qu'on croit inventés, qu'on rencontre partout dans ces terres pétrolières, sont finalement le fil conducteur du récit qui est dans Un monde de brut et des suivants. Et dans chacun de ces pays, en passant par en bas plutôt qu'en passant par en haut, dans une démarche qui n'est pas anthropologique, mais enfin qui passe plutôt par l'idée de parler aux gens de la base et éventuellement, quand il y a des possibilités, par les portes de derrière, de remonter chez les responsables, j'ai eu cette vision, ou plutôt cette c'est pas une vision, j'ai eu cette image, ce tableau, qui est celui que j'essaye aujourd'hui, peut-être maladroitement, enfin du mieux que je peux, de vous raconter, qui est un tableau d'une absolue misère, un tableau dramatique, un tableau qui montre qu'il existe une sorte de malédiction des matières premières qui fait que les pays qui en disposent, je dirais au sud de l'équateur, grosso modo, sont promis bien davantage à la misère d'un mal développement et d'un développement catastrophique qu'aux promesses que leur gouvernement et surtout les compagnies occidentales qui viennent travailler chez eux leur promettent au moment de commencer d'y travailler. Moi, j'aimerais pas conclure. Pourquoi ? Parce que cette histoire n'a pas de conclusion. D'abord, une conclusion, c'est une manière de terminer le récit, de dire voilà, il faut penser ici, il faut penser ça. Moi, j'adore dire, mais c'est évidemment un peu de la provocation, que je n'en pense rien. Je vais sur place pour documenter, pour raconter, pour vivre ça, pour le retransmettre sur un mode narratif, un mode du récit qui me semble peut-être plus à même de faire ressentir un peu ces expériences de terrain, mais sans en donner une conclusion, à la fois parce que si elle est trop pessimiste, on broie du noir et on se dit, il y a de manière pas de solution, et puis elle peut de toute manière pas être optimiste, vous avez compris pourquoi, à moins de travailler pour le compte de compagnies financières ou autres qui, elles, sont plus intéressées par les bilans de pertes et profits des compagnies pétrolières, minières ou autres qui travaillent dans ces pays-là. Pas de conclusion aussi, parce que cette histoire est en mouvement et ne cesse de changer. L'action pétrolière, l'action minière, l'action énergétique ne cesse de se déplacer. Jusqu'à il y a 10 jours, on était dans une logique de dire finalement le pétrole, peut-être qu'on pourra s'en passer, de toute manière, on a le nucléaire. Ben voilà, on est 10 jours plus tard, désormais je pense que c'est un tout petit peu condamné pour le nucléaire, en tout cas le temps qu'on oublie, comme pour la catastrophe précédente, donc a priori dans les 20 ans qui viennent, le nucléaire risque d'avoir du plomb dans l'aile, ce qui veut dire que le pétrole, une fois de plus, va finir par retrouver sa place, cette place qu'on lui promet de disparaître en raison de la crise climatique que j'évoquais un peu plus tôt. Je lisais il y a 2 jours dans le Herald Tribune que les Japonais étaient déjà en train de réfléchir, parce qu'on ne peut pas perdre de temps pour les questions énergétiques, elles sont trop centrales, à comment remettre du gaz dans leur économie, dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire finalement de vouloir prendre plus de gaz dans le mélange énergétique japonais. Aujourd'hui, on en utilise très peu puisqu'il y a beaucoup de nucléaire. Et ce gaz viendra bien de quelque part. Alors, pas sous forme de gazoduc, puisque le Japon est une île très loin des pays producteurs, mais il peut venir sous forme de gaz naturel liquéfié. Les principaux producteurs sont au Qatar, en Arabie Saoudite en partie, au Turkménistan, mais aussi, une fois de plus, dans le golfe de Guinée, puisque des pays comme l'Angola, comme la Guinée équatoriale, comme le Nigeria sont eux aussi de gros producteurs de gaz. Donc on espère qu'ils en profiteront, mais je ne suis pas vraiment sûr qu'ils en profiteront. Si je n'ai pas les chiffres en tête, de toute manière ils seraient un peu abstraits, mais ce qui se passe depuis 2000 dans cette région du monde ici, entre le Nigeria, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo-Brazzaville plus au sud, l'Angola, c'est le plus grand transfert de fonds dans l'histoire de l'Afrique. Avec un baril qui est monté jusqu'à 147 dollars en juillet 2008, puis qui ensuite a replongé, qui est désormais de nouveau aux alentours de 110 dollars avant peut-être de nouvelles performances. Si vous multipliez le nombre de barils qui ont été produits et exportés, certains sont quand même utilisés sur place, à un prix moyen qui est le prix de la décennie 2000 à 2010, vous avez un transfert de fonds qui pourrait avoir donné une vie décente à chaque Africain au moins 10 fois. La vérité, c'est de constater que ça n'a pas été le cas. Donc voilà un peu l'état des choses. Maintenant, il faut toujours garder une note d'espoir. Moi, je ne suis pas là pour documenter le désespoir, mais il est vrai qu'en voyageant dans ces territoires, c'est un peu le genre de choses qu'on voit. Je n'ai évidemment pas été complet. Il y a beaucoup d'autres pays, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, merci.
Ici se clôture la conférence de Serge Anderlin, enregistrée à l'Université libre de Bruxelles le 24 mars 2011. Vous pouvez télécharger d'autres podcasts à l'adresse http://sonor.ulb.ac.be. Serge Anderlin a écrit Un monde de brut aux éditions Seuil. Présentation Delphine Huilput. Réalisation technique Philippe Delchambre. Une production des ateliers de journalisme de l'Université libre de Bruxelles.